Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être
de l'amour, j'aime inépuisable parole, parole que nous pouvons comprendre avec l'intelligence humaine et nous ne faisons qu'en égratigner un peu la surface. Mais d'une profondeur si grande, l'amour. L'amour que nous devons à Dieu et l'amour que nous devons au prochain. Clé de toute vie chrétienne efficace, de toute marche avec Dieu efficace qui nous fera parvenir dans le royaume des cieux. Il est possible de rentrer dans le royaume des cieux, mais voilà la route, l'amour. Ce matin, j'aimerais vous parler plus particulièrement de l'amour dynamique de la foi. L'amour dynamique de la foi. La foi a besoin d'une force. Elle a besoin d'une force pour pouvoir s'exprimer. La foi seule devient l'égalisme. Nous allons en parler plus largement, mais avant, j'aimerais vous lire quelques passages qui se trouvent dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 4 à 6. Seigneur, s'il te plaît, sanctifie ta parole. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'explication, la voici. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Autrement dit, la dynamique de la foi, c'est l'amour. Mais remarquez comme il s'exprime l'apôtre. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Oh, gloire à Dieu de ce qu'il y a une nouvelle alliance, parce que par l'ancienne, je ne pouvais arriver à aucune justification. Tout ce que l'ancienne me faisait, c'était de me faire voir ce qu'était le péché, et pointer le doigt sur le péché qui se trouvait en moi, moi, homme adamique, non régénéré. Mais cette loi ne pourra jamais me faire parvenir à la lumière et à la vérité. Et l'apôtre dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous ne pouvez être justifié par la loi, car vous êtes incapable d'obéir à la loi. Rien que la désobéissance à un seul de ses commandements vous rend coupable de violation de tous les commandements. Vous êtes donc déchu de la grâce, car il y a la loi, mais il y a aussi la grâce. La loi dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance meilleure, il y a la grâce. Donc, choisissez qui vous voulez servir, sous quel régime vous voulez être, sous le régime de la loi ou le régime de la grâce. Malheureusement, il y a trop de chrétiens qui veulent mélanger les deux. Ils sont sous la grâce, mais ils se conduisent comme s'ils étaient sous la loi. Du moins, ils font de leur foi une loi qu'ils veulent imposer à tous. C'est pour ça que leur foi devient stérile et qu'elle est incapable de produire quoi que ce soit. Parce qu'elle est sous la loi, c'est une foi exprimée dans la loi et non dans la grâce. Vous êtes déchus de la grâce, vous qui voulez marcher selon la loi. Vous êtes déchus de la grâce, vous légalistes. La grâce n'est pas quelque chose qui se mérite. La grâce n'est jamais méritée. En aucune façon que ce soit. C'est quelque chose qui vous est donné alors que vous ne la méritez pas. Et je le répète comme je l'ai déjà dit. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que veut dire la grâce, parce qu'ils parlent de mérite de la grâce. Il faut des œuvres pour mériter une grâce. Aberration énorme, et je n'arrêterai pas de le dire et de le redire encore. Une fausse doctrine satanique, parce qu'une grâce ne se mérite jamais. Sachez, ouvrez le dictionnaire en langue française, et vous allez voir qu'il est bien dit qu'une grâce n'est pas quelque chose qui se mérite. Et vous, vous parlez de mériter une grâce, jamais vous ne mériterez une grâce, au grand jamais. Mais voilà les mensonges de Satan pour garder les gens sous le joug de la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, parce que loi ou grâce sont deux choses différentes. Ce sont deux régimes différents. Par là, nous connaissons la mort et la connaissance du péché. Notre conscience est sensibilisée, nous fait voir notre besoin de quoi ? Notre besoin de la grâce, parce que sans la grâce, nous ne pouvons pas être sauvés. La loi nous révèle la grâce, elle nous fait crier à Dieu, je ne puis pas, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours. Je ne puis parvenir à la vie, je ne puis parvenir à une nouvelle vie, à un nouveau comportement, à un changement de ma nature. J'ai une nature adamique, vouée au péché, vendue au péché est en moi. La loi, mais c'est comme un miroir qui me reflète un visage terrible, une nature terrible et une incapacité complète de vouloir faire la volonté de Dieu, de pouvoir la faire et de pouvoir être saint. Soyez saints car je suis saint. Qui peut être saint par lui-même? Qui? Même le plus grand saint de ce monde était un homme pécheur. Même le plus grand saint de ce monde était un homme pécheur et qui bien des fois s'est frappé la poitrine et qui a crié « Sois apaisé envers moi, ô Dieu ». Donc la grâce doit être dispensée. Et cette grâce est dispensée. Mais quand on parle de grâce, on parle aussi d'amour. Nous sommes graciés à cause de l'amour, parce qu'il a tant aimé. La grâce est une expression de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous fait grâce parce qu'il nous aime. Dieu nous fait grâce et nous pardonne parce qu'il nous aime. Il ne se plaît pas à la perdition du pécheur et à sa condamnation, mais il se plaît à le pardonner, à effacer ses péchés et à le prendre comme son fils après l'avoir transformé et changé. Comment ? Par la grâce. Pourquoi par la grâce ? Car la grâce s'exprime à cause de l'amour. La loi, il n'y a pas d'amour dans la loi. La loi, elle tranche, elle condamne, elle juge selon les statuts et les règlements. Et tu as violé, toute âme qui pêche mourra. L'amour n'y est pas, mais dans la grâce, il y a l'amour, et nous sommes sauvés par grâce, parce qu'il nous a tant aimés, et l'expression de son amour est la grâce. C'est une chose qui ne se mérite pas. On ne peut l'acheter, on ne peut la mériter par des œuvres, quelles qu'elles soient. Personne ne mérite la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Oui, mais la foi sans l'amour devient loi. La dynamique de la foi, c'est l'amour. Car, l'apôtre explique, voilà ce que je veux vous dire. En Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par l'amour. La foi, la vraie foi, s'exprime par l'amour. Et s'il n'y a pas la vraie foi, il n'y a qu'une foi légaliste, une foi œuvre, une foi extérieure, mais une foi dure. La vie chrétienne, elle est vécue par les hommes de différentes façons. Il y en a qui sont chrétiens, ils ont la foi, disent-ils, mais ils ont une foi égale loi, une foi dure. Il faut te soumettre, c'est comme ceci, voilà ce que dit la Bible, tu dois, moi, cette parole est vraie, alors tu dois la vivre. Enfin, et ils condamnent les autres de ce qu'ils n'expriment pas leur foi comme ils pensent qu'ils devraient l'exprimer, c'est-à-dire comme eux l'expriment. Mais leur foi, ils ne réalisent pas que leur foi est morte. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le dynamisme de la vie qui est l'amour. L'amour qui est notre thème depuis plusieurs semaines est une force dynamique. Et c'est ça que j'aimerais vous dire. C'est une force dynamique. C'est la clé de toute véritable vie chrétienne. La vie chrétienne n'a de valeur que selon la place que nous faisons à l'amour. la vie chrétienne est victorieuse que dans la mesure où nous laissons l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs s'exprimer à travers nous. Et il s'exprima d'autant plus fort qu'il est grand en nous. Et cette expression sera la foi qui sera manifestée. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit fait toute la différence. Mais il est répandu, cet amour de Dieu, dans un cœur né de nouveau seulement. Or, cette nouvelle naissance, elle ne peut être fabriquée. Cette nouvelle naissance n'est pas une adhésion à une église ou à une dénomination. Ce n'est pas un nom ou une carte de membre que l'on porte dans la poche. Cette nouvelle naissance est une action, est une intervention divine dans la vie de l'individu. Dieu veut intervenir dans nos vies. L'expression de cet amour, qui est le dynamisme de la foi, vient de cette transformation surnaturelle que Dieu a faite dans le cœur. Dieu n'interviendra jamais dans une vie si on ne l'y invite pas. Dieu ne brise pas les portes. Dieu ne viole pas comme Satan le fait. Satan, il viole, il brise les portes, il impose. C'est un dictateur terrible. Mais lui, non. Le Seigneur, non. Il est poli. Il n'impose rien. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend m'ouvrira et je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ceci nous parle d'une intimité. Jésus, Dieu, veut l'intimité avec les siens. Il frappe à la porte, il désire rentrer, mais il ne rentrera pas de force, il attend qu'on puisse ouvrir la porte. Nous ne pouvons changer nos vies, mais nous pouvons ouvrir la porte. Nous pouvons devenir saints, mais nous pouvons le laisser rentrer afin qu'il nous rende saints. Il se tient à la porte. Ce n'est pas lui qui va faire ce que nous pouvons faire. Ouvrons-lui la porte et il rentrera. Il désire avoir une intimité avec nous. Et là, il est parlé et il y a l'idée du repas. En effet, lorsqu'entre amis, on s'assoit à table et qu'on mange à table, il y a une certaine intimité. Il y a un contact personnel. Il n'y a plus de barrière. Nous sommes là assis dans l'intimité, dans ce lieu-là, peut-être chez nous à la maison. Je ne veux pas parler du repas qu'on prend ensemble dans le restaurant au milieu de cette salle avec 1000 tables. Non. Je parle de ce repas pris dans l'intimité de la maison, avec les portes fermées entre amis, et on parle. Jésus veut désire avoir cette intimité avec nous, et créer ainsi un contact personnel avec l'individu. Dieu n'interviendra jamais dans une vie si on ne l'invite pas, et si on ne le laisse pas intervenir. Mais quand il intervient, alors il fait des merveilles. Il fait des choses extraordinaires et de grands miracles. Car tout ce qu'il fait, ce sont des choses que nous ne pouvons faire. Il va transformer nos vies. Il va déverser dans nos cœurs son amour. Laissons-le faire. Invitons-le. Alors il y aura miracle. Alors il y aura changement. Alors il y aura une nouvelle vie. Alors il y aura foi. Dynamisé par l'amour. Comprenons ce que c'est que la foi. Bien sûr, la foi a toujours comme base la parole de Dieu. Une foi qui n'a pas comme base la parole de Dieu n'est pas une foi, c'est une faute de vocabulaire. C'est de la superstition. Vous croyez dans quelque chose qui n'a pas de base biblique, sachez que ce n'est pas la foi. Même si on y met cette étiquette-là, c'est de la superstition. La foi n'a comme base et comme fondement que la parole de Dieu. Mais il arrive que des gens ont une foi basée sur la parole de Dieu, mais cette foi, au lieu de faire vivre, elle donne la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas dynamisée par l'amour. S'il y a la foi dynamisée par l'amour, il y a vie. S'il y a la foi, une foi très évangélique, une foi fondamentale, mais non dynamisée par l'amour, il y a la loi, le légalisme. Pour Christ, dans son échelle des valeurs, ce qui a la primauté, ce qui occupe, disons, le sommet de la liste, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Vous savez que dans l'ancienne loi de Moïse, chaque mâle qui naissait dans le peuple d'Israël, le peuple lié à l'ancienne alliance, promulgué par le sang des sacrifices avec Moïse et tout le peuple, vous savez que tout mâle, à 8 jours après sa naissance, devait être circoncis. Chaque mâle devait porter en lui-même la marque dans sa chair de cette alliance contractée avec Dieu. Mais, cette loi, cette marque n'était incapable de changer l'homme intérieur. Et ces hommes, avec leur marque dans leur chair de cette alliance avec Dieu, se sont voués aux idoles et aux faux dieux, se sont prostitués devant les dieux païens et les faux dieux. Ils ont offert leurs enfants en sacrifice et ils sont tombés dans toutes sortes d'aberrations. Et déjà dans le Nouveau Testament, nous voyons les prophètes qui parlent d'une autre circoncision, la circoncision du cœur. La circoncision intérieure, qui elle est valable, parce qu'elle est faite par la main de Dieu, et non plus par la main de l'homme. Mais ceci nous rappelle des grandes vérités. Une grande vérité que j'aimerais souligner, et du reste l'apôtre Paul, c'est pour cela qu'il dit ici, car en Christ Jésus, ce n'est ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Autrement dit, ce n'est ce qui a de la valeur pour Christ et pour Dieu, ce n'est pas le rite religieux. Ce qui a de la valeur pour Dieu, ce n'est pas la forme de la religion que vous pratiquez. Ce qui a de la valeur pour Dieu, ce n'est pas la liturgie que vous suivez. Ce qui a de la valeur pour Dieu, ce n'est pas le vêtement que vous portez. Dans l'ancienne alliance, ils avaient un vêtement spécial pour le service du culte. Mais dans la nouvelle alliance, non ! Le changement est intérieur. Il est intérieur. Ce qui a de la valeur pour Dieu, ce n'est pas les méthodes que l'on emploie. Ce qui a de la valeur pour Dieu, ce n'est pas la tradition que nous avons héritée des anciens ou de l'habitude qu'on a dans notre église de faire ou de ne pas faire. Ce n'est pas ça qui a de la valeur pour Dieu. Mais ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est la foi agissante par l'amour. Frères, sœurs, combien de fois Dieu a essayé d'exprimer cela à son propre peuple. Dans l'Ancien Testament, nous voyons dans Ésaïe au chapitre 1er, à partir du verset 1er, ce qu'il dit. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. » L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les sonalités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je n'écouterai, je détournerai mes yeux. Et quand bien même vous multipliez vos prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Et nous voyons le prophète Jérémie qui s'écrit au chapitre 6 et au verset 20. Il exprime là la pensée de Dieu. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Saba ? Du roseau aromatique d'un pays lointain. Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne sont pas agréables. Pourquoi ? Au verset 19, « Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles quant à ma loi. ils l'ont méprisé. Et que dit cette loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute sa force. Et encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que dit cette loi. Et que dit le Seigneur pour ceux de la Nouvelle Alliance? Il leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Pas 10 commandements, pas 20 ordonnances, pas 100 de prescriptions, non, un commandement. Et je l'appelle commandement nouveau, quoiqu'il se trouve aussi dans la loi de l'ancienne alliance. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Celui qui aime accomplit toute la loi. C'est pour cela qu'il s'exprime en disant, vos actes religieux me pèsent et je les déteste. Vos prières, vos jeûnes, vos dons sont une charge pour moi et je ne prête aucune attention à ces choses que vous faites. Vos dons, vos prières, c'est l'expression d'une foi morte, une foi légaliste, mais je ne prends plaisir à aucune de ces actions que vous faites. Quelle est cette foi dont vous vous réclamez, et ces œuvres de piété dont vous vous vantez? Je n'y trouve aucun plaisir, dit le Seigneur, car votre foi est morte, elle n'a aucune puissance, elle n'est que vaine parole et vaine redite. Ce qui a de la valeur pour moi, ce qui a de la valeur pour moi, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Mais c'est ça que cela veut dire. La foi agissante par l'amour. Combien nombreux sont les chrétiens aujourd'hui qui font les œuvres de la foi? Et mécaniquement parlant, ils font les œuvres de la foi. Parce que voilà, maintenant ma religion me dicte que, pour faire mon devoir religieux, je fais que, parce que je crois en Dieu, il faut que. Mais l'amour n'y est pas. Ils haïssent leur prochain. Ils sont incapables de pardonner à celui qui leur a fait du mal. Ils sont incapables d'oublier la peine qu'on leur a infligée, le dommage qu'on leur a infligé. Ils tournent le dos à ceux qui leur ont fait du mal au lieu de les aimer leurs ennemis. Ils sont incapables de parler avec celui qui les insulte. Et ils tournent le dos, et ils n'ont pas pardonné. Dieu dit, je déteste tes prières et tes jeûnes. Dieu dit, je déteste toutes tes œuvres de religion que tu accomplis ainsi chaque jour. Et je n'entends même pas, et je ne prends même pas garde à tes prières. Ah! Vous vous étonnez que Dieu ne réponde pas à votre prière? Vous vous étonnez qu'après tant de temps, il n'y a pas de réponse. Vous passez des nuits de jeûne et de prière. Vous donnez de l'argent, il semble que le ciel est fermé. Vous dites, je crois, c'est bien. Mais où est l'amour? La dynamique de la foi, c'est l'amour. Il n'y a pas d'amour. Vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Et ainsi, vous portez préjudice à votre prochain. Vous prenez la femme de votre prochain et vous le laissez en larmes avec ses enfants sur les bras. Vous prenez le mari de votre prochain et vous le laissez seul dans le malheur et la souffrance et les larmes. Compétition continuelle à cause de votre convoitise et vous venez dans l'église en chantant des cantiques et en disant « Dieu, nous t'aimons ». Mais vous avez certainement la foi, vous avez la Bible, mais une foi morte. Le dynamisme de la foi, c'est l'amour, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La foi agissante par l'amour, une foi forte, une foi puissante, une foi qui obtient, une foi qui agit, une foi qui a du résultat, c'est une foi dont la force dynamique est l'amour. Vous n'avez pas d'amour dans votre cœur. Vous êtes incapable de supporter des injustices. Votre visage est fermé devant celui que vous détestez. Pas plus tard que hier, j'entendais un frère qui était de passage, qui est reparti aujourd'hui. Un frère américain qui a assisté quelque part il y a quelque temps, pas ici à la borne, mais dans une de nos églises, à une réunion particulière. Et il disait, je ne pourrai jamais oublier le visage de ce pasteur. En tout cas, il n'avait pas un visage d'ange, plutôt de démon. Tout était inscrit en grosses lettres sur son visage, ce qu'il pensait dans le fond de son cœur. Il y avait certainement la foi, et cette foi, il la crie du haut de la chair tous les dimanches. Mais une foi qui donne aucun résultat. Lorsque je vois l'église de ce pasteur que je connais très bien, eh bien, je peux attester que son église n'est plus qu'un squelette. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il a la foi, mais sans l'amour. Et cette foi est morte. Elle n'a aucune puissance de dynamique. Pas de force dynamique. Il est incapable, et son église est incapable, de comprendre l'essentiel. Nous sommes sauvés par grâce et par la foi, nous dit la Bible. Par grâce, parce que nous ne méritons rien. N'oublions pas cela. Par la foi, car dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, selon Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, cette foi est agissante, cette foi est dynamique, cette foi est opérante, cette foi est active, cette foi produit du fruit.
Il n'y a pas de foi. Oui, je puis le dire. Il y a une foi exprimée par la bouche, mais la foi réelle est plus que les paroles langage de canard. C'est quelque chose qui est démontré par le résultat, par les fruits. Du reste, dans 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre de l'amour, nous pouvons encore souligner là l'aspect que j'essaye de développer ce matin. Dans 1 Corinthiens 13, il nous est dit que je puis avoir la foi qui transporte les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je suis pamba. Je peux avoir la foi qui transporte les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ce qui fait de moi quelque chose de valable. Pour le royaume des cieux, c'est l'amour. Et l'amour est la dynamique de la foi. La foi est agissante par l'amour. Comprenons-le, s'il vous plaît. Nous pouvons avoir un bon orchestre. Nous pouvons avoir de bons instruments de musique. Nous pouvons avoir des bons musiciens capables, qui savent comment jouer. Mais si le courant ne passe pas dans les amplificateurs, il n'y aura pas de son. Malgré l'excellence des musiciens, malgré le matériel de première qualité, ceux qui sont juste autour d'eux entendront quelques sons, mais ça ne sera pas des sons de qualité. Et ensuite, la masse ne pourra pas l'entendre. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit est l'élément qui donne l'efficacité. Tous ces instruments à travers lesquels nous parlons et nous jouons la musique, micro, ampli, baffle, fil électrique, et tout cela, tous ces instruments sont morts et ne servent à rien si le courant électrique n'y passe pas. La vie est transmise par le courant électrique qui y passe. De même pour chacun d'entre nous, nous avons la théorie de la foi, nous avons la parole de Dieu, nous avons la connaissance, mais ce qui rend efficace toutes ces choses merveilleuses que Dieu nous donne, c'est la dynamique de l'amour. Si l'amour n'y est pas, tout cela ne sert de rien. Alors, si l'amour est là, comme l'électricité est dans l'amplificateur,
l'élément d'efficacité, il y aura harmonie, il y aura dynamique, il y aura force à notre foi. Il n'y aura pas discordance, il n'y aura pas cacophonie. Il arrive que des gens pensent qu'ils croient et qu'ils ont une foi de champion. Quand en réalité leur foi est paralysée par le manque d'amour, alors ils essayent de prouver aux autres qu'ils ont une foi extraordinaire. Ils vont même jusqu'à fabriquer des miracles. Ils vont jusqu'à prétendre qu'il y a des miracles. Quand il n'y a pas de miracle, pour prouver aux autres qu'ils sont des champions de la foi, sottise, car la supercherie sera toujours découverte à leur plus grande honte. Ce qui leur manque, c'est l'amour. Il y en a d'autres qui certainement ont reçu un don de Dieu, et quand ils prêchent l'évangile, des grandes foules sont attirées. De grandes foules entendent Dieu dans sa miséricorde guérit et manifeste sa puissance à cause de la fidélité de sa parole. Mais voilà, il leur manque un ingrédient principal, c'est l'amour. Quand ils seront devant Dieu, ils pourront dire à Dieu, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. J'ai fait des miracles en ton nom et j'ai prêché à de grandes foules. Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Et quelle est cette iniquité? Ils n'ont pas aimé leur prochain. Je me souviens d'avoir entendu des serviteurs de Dieu, alors qu'on voyage à travers le monde, très amers sur certains de leurs collègues, qui se plaignent et qui sont pleins d'amertume. Où est l'amour, alors? Ce qui leur manque, c'est l'amour. Apprenons à prier avec foi et à marcher dans l'amour, alors nous serons portés en avant par une dynamique que personne, ni même l'enfer, ne pourra arrêter. Si nous avons la foi dynamisée par l'amour, qui peut nous arrêter? Dites-moi, qui? Nous foncerons dans la mêlée, nous foncerons dans le tas, et le Seigneur aura la victoire. Que nous dit le Cantique des Cantiques? Au chapitre 8, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergent pas. Voilà le genre d'amour qui doit animer nos cœurs à nous, enfants de Dieu, dans le combat de la foi. Le combat de la foi ne se fait pas sans l'amour. Notre foi peut être handicapée par le manque d'amour et c'est ça la tragédie de beaucoup d'hommes et de femmes. Vous pouvez être, vous, parents, un obstacle pour la conversion de vos enfants dans la marche avec Dieu quand vous leur donnez insuffisamment d'amour. L'amour de Dieu doit prévaloir dans votre foyer. Alors les enfants seront attirés à Dieu. Mais que voyons-nous dans certains foyers? Les parents ont une foi vraiment magnifique. Ils croient dans toute la parole de Dieu. Ils croient qu'il faut prier, ils croient qu'il faut jeûner, ils croient qu'il faut écouter la parole, ils croient qu'il faut venir tous les dimanches au culte, tous les mercredis aux réunions d'études bibliques, tous les vendredis aux réunions de prière. Ils le font. Mais ils disent à leurs enfants, tu dois venir avec moi. Il faut que tu viennes. Tu vas venir dans la maison de Dieu. Bon, il est petit, il va oublier. Mais plus tard, à mesure qu'il grandit, il pense dans sa tête, vivement que je sois débarrassé de ce joug. Du reste, il est quelque part là-bas derrière, et il ronge son frein, et il pense, moi, quand c'est qu'il va finir ce prédicateur, il m'embête. Et dès l'instant où il peut s'échapper, dès l'instant où il est assez fort pour partir, il va partir, et il va faire sa vie, comme il le dit. Pourquoi? Parce que la foi de papa et maman n'était pas dynamisée par l'amour. Tu dois, il faut que, comme punition, tu vas lire 5 chapitres de la Bible. Ah, c'est une punition ça. Comme une punition, tu vas faire des prières. Comme si la prière était une punition. Quand je pense qu'il y a des religions dans notre monde qui font faire des prières comme punition, comme pénitence. Pauvre malheureux! Tu n'as rien compris à la loi de l'amour et de la vraie foi. C'est une foi morte et légaliste. Je n'en veux point. Et cet enfant qui est éduqué dans ce foyer où la foi n'est qu'une expression d'un légalisme, un léganisme révoltant, eh bien cet enfant, il va être perdu. Parce que papa et maman n'ont pas su l'aimer suffisamment pour répondre à ses besoins intimes. La grâce, c'est l'amour. Papa et maman, tu ne dois pas avoir simplement la démonstration de ta foi dans ton foyer, mais aussi la démonstration de ton amour. Alors, s'il y a l'amour et qu'il y a la foi, cette foi deviendra une dynamique de vie. Oui, parce que ton enfant voudra avoir ce que tu as. Une dynamique de vie. La loi ne va jamais sauver vos enfants. Jamais. Tu dois. Il faut que tu obéis. Maintenant, voilà la baguette. Je te taperai. Je ne veux pas dire que de temps à autre, une bonne claque bien placée ne soit pas nécessaire. Mais avec la claque, il faut l'amour. N'oubliez pas ce principe, papa, maman. Quand ton enfant a pleuré un bon coup à cause de la claque, tu le prends dans tes bras et tu lui dis, je t'aime, mais je veux aussi que tu comprennes. La foi agissante par l'amour, c'est ainsi que nous gagnerons, car nous avons une bataille dans nos foyers, dans notre société, dans notre église. La foi agissante par l'amour, alors nous gagnerons la bataille. La sorte d'amour que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs depuis que nous sommes nés de nouveau accomplit la loi. Nous ne pouvons pas accomplir la loi par elle-même, à cause d'elle-même, mais nous pouvons l'accomplir par l'amour. Chose impossible à l'homme naturel, Paul écrivait à ces églises qui sortaient des nations, du milieu des peuples païens, il leur écrivait ceci dans Galates 5,14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, une seule, dit-il, et celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est pourquoi Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Non pas 10 commandements, non pas 20 ordonnances, non pas 30 régulations ou autres, non ou statuts ou autres, c'est trop compliqué et je ne peux m'en souvenir. Mais je vous donne un seul commandement et lorsque vous obéirez à cet unique commandement, alors vous serez obéissant de toute la loi. C'est pourquoi Jacques dit, c'est une loi royale. Alléluia. Une loi royale. Toute la loi est donc accomplie dans une seule parole. Et cette parole, c'est quoi? L'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas de plus grand que ceci. Quand vous marchez dans l'amour, vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis. La loi de l'amour inclut tous les commandements. Que c'est simple, désormais. La vie chrétienne n'est plus difficile. La vie chrétienne devient simple. Elle est pour les simples. Si vous êtes trop intellectuel, jamais vous ne pourrez rentrer dans le royaume des cieux. Laissez de côté l'intellect. C'est le cœur qui parle. C'est pour cela même le petit pygmée de la forêt peut saisir cette vérité et la vivre mieux que vous, intellectuel. Puisque Dieu est amour et que nous sommes des enfants de Dieu, alors nous sommes des enfants de son amour merveilleux, lequel est répandu dans nos cœurs. Étant enfants du Père Céleste, sa nature nous est donnée et son amour est dans nos cœurs. Nous devons alors laisser la vie de l'amour de Dieu dominer. C'est pourquoi notre corps et notre intelligence naturelle doivent être dominés par la nouvelle nature. Car autrement, ce corps, cette intelligence naturelle, adamique, empêchera notre marche dans l'amour et notre foi n'aura pas de force, plus de force. L'intelligence naturelle prendra toute la place et notre chair voudra dominer l'homme nouveau qui est né, qui est là à l'intérieur.
Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu et nous ne sommes plus d'ici-bas. Écoutez ce que Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 3 et au verset 12. Il dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et il répète, et nous sommes, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, dit-il, nous sommes maintenant, trois fois il le dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Nous serons semblables à lui. Trois fois il répète, n'ayez aucun doute à ce sujet. Depuis que nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous avons la nature de Dieu en nous. Donc, cette nature, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, cet amour est en nous. Laissons cet amour s'exprimer. Ce n'est pas « nous serons enfants de Dieu dans le futur ». Non, mais nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. À cette heure et dans un proche futur. Oui, proche. Peut-être pour notre génération, nous serons semblables à lui. Fini avec ce corps de chair, il restera. Nous aurons un corps glorifié tel qu'il avait lors de sa résurrection. Alors, s'il vous plaît, vivons comme des enfants de Dieu. Ne manifestons pas le visage de Satan qui exprime notre haine, notre mauvaise foi, notre réaction charnelle. Je sais qu'un homme peut se fabriquer un visage, mais alors là, c'est un hypocrite. Il peut peut-être tromper les autres, mais il ne peut pas tromper Dieu. Vivons comme des enfants de Dieu. Manifestons l'amour du Père. Et nous, alors, nous serons à l'image du Père. Notre foi, désormais, renversera des montagnes, parce que l'amour dynamise la foi. C'est pourquoi Paul dit, dans Romains 12, versets 1 et 2, il dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ou comme il est écrit ailleurs, un culte intelligent. » J'aime bien ça. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous voyez, notre intelligence a besoin d'être renouvelée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui sera votre culte raisonnable, ce qui sera votre culte intelligent, acceptable par Dieu. Notre intelligence, donc, doit être renouvelée. Comment ? Par l'amour de Dieu. Pour marcher dans l'amour, pour avoir une foi opérante, il faut être renouvelé dans l'intelligence. L'intelligence naturelle, l'intelligence adamique, ne fait pas la volonté de Dieu, est incapable de concevoir les choses de Dieu. La logique humaine n'est pas la logique de Dieu. La sagesse humaine est folie pour Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Voilà ce que c'est que l'intelligence renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée par l'amour de Dieu. Alors nous marcherons dans l'amour, dans nos relations avec notre prochain. Et notre foi remportera des victoires. Ne faisons pas comme cet homme de la parabole qui avait reçu un talent. Trop parmi nous, nous cachons nos talents. Vous vous souvenez qu'il y en a l'un d'eux qui a reçu ce talent de la part de son maître pour faire valoir. Au lieu de le faire valoir, il l'a caché. Et quand son maître est revenu pour demander des comptes, il a rendu ce talent en disant « Je sais que tu es un homme » et tout ça, il a dit une sorte de chose pour s'excuser. « Voilà ton talent, prends-le. » Et le maître s'est mis en colère et lui a dit « reprenez ce talent à celui-là et donnez-le à celui qui a déjà 10 talents. Celui qui a recevra encore, mais celui-là, il n'aura plus rien.
parce qu'il n'a pas mis en valeur le petit peu que je lui avais donné. Ce que je lui ai donné, je ne lui ai pas demandé de prêcher du haut de l'estrade. Je ne lui ai pas demandé de faire des exploits. Je ne lui ai pas demandé d'aller à travers les mers porter l'évangile. Je lui ai simplement déversé dans son cœur mon amour. Et il n'a rien fait avec cela. Il l'avait, mais il l'a fermé. Et il n'a pas aimé son prochain. Enlevez-lui ce que je lui ai donné et qu'il aille dans les ténèbres du dehors. Trop parmi nous ont caché le talent que Dieu a mis à notre disposition. Ils l'ont caché au lieu de l'utiliser, au lieu de l'exercer, au lieu de le faire valoir. Frères, sœurs, il faut pratiquer, il faut exercer, il faut développer ce que Dieu nous a donné. Et qu'est-ce qu'il nous a donné ? Son amour déversé dans nos cœurs. Et si nous exerçons cet amour, nous obéissons à toute la loi. Quel soulagement ! Nous devons marcher dans l'amour, même quand les autres ne marchent pas dans l'amour à notre égard. Les gens peuvent être mauvais pour nous. Et nous répondent avec méchanceté et dureté. Mais notre réaction est une réaction d'amour. Si il en est ainsi, alors nous serons plus forts, plus efficaces pour le royaume des cieux. Et nous ferons des exploits pour Dieu par la foi vivante qui est en nous. Car notre foi sera dynamisée par l'amour. Le plan de Dieu à notre égard est que nous marchions dans l'amour. Voilà le plan. Dans l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas de dire avec méchanceté à ce frère qu'on a envoyé pour contrôler la situation de laquelle on est responsable. Qui t'a envoyé? Tu n'as rien à faire ici. Ce n'est pas ton affaire, etc. Mais non. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois te tourner contre lui. Tu manques d'amour, frère. L'autre fait ce qui lui a été demandé. Et des comptes lui seront demandés. Quand on marche dans l'amour, beaucoup de problèmes trouvent leur solution. Et la foi n'est plus alors une théorie pieuse, mais elle devient une démonstration, elle devient une force dynamique. Car en Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est la foi agissante par l'amour. Et pour terminer encore ce verset, dans Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Autrement dit, la seule dette que je dois avoir, la seule, vous m'entendez en tant qu'enfant de Dieu, la seule et unique dette, je le répète, dans un pays où on a trop l'habitude de faire des dettes, la seule dette que je dois avoir, c'est d'aimer mon prochain. C'est une dette que je n'arriverai jamais à épurer, car chaque jour qui passe, chaque jour je dois aimer encore et payer ma dette. Voilà la seule dette que Dieu reconnaît et que nous devons avoir, aimer notre prochain.